Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Voilà, et c'est parti pour le premier sujet. Comment naviguer en toute sécurité en saison sèche? Pendant la saison sèche, plusieurs embarcations ont du mal à naviguer. D'après les experts de la régie des voies fluviales, le problème est dû à la présence des bancs de sable dans les cours d'eau. Et pour éviter des accidents, chaque année, il y a le balisage qui se fait. Comment donc naviguer en toute sécurité pendant la saison sèche? Le numéro de contact, si vous êtes intéressé, c'est les 081 890 63 94. Il vous suffit seulement d'appeler, de donner votre numéro et nous on va vous rappeler. Voilà, Gabriel Mokango, vous êtes directeur technique de la régie des voies fluviales. La navigation en saison sèche, c'est de manière générale, ça devient un peu plus compliqué de naviguer en saison sèche plutôt qu'en saison de pluie.
Oui, absolument. Vous devez savoir que ce cours d'eau qui soit exploité à l'état naturel dépend essentiellement de précipitations que nous avons qui alimentent ce cours d'eau. Et ce qui fait que pendant le bas saison, donc nous avons pas de précipitation et les rivières ne sont pas alimentées comme il se doit.
Donc quand vous dites pas de précipitation, c'est qu'il n'y a pas de pluie.
Il n'y a pas de pluie. Ah, voilà. Surtout dans la partie de l'hémisphère sud où il n'y a pas de pluie, les rivières ne sont pas alimentées. Et ce qui fait que le coulement que nous observons, c'est plus le coulement dû à ce que nous disons écoulement souterrain. Des apports de pluie qui avaient infiltré et qui sont ressuscités à ces cours d'eau. Et quand le plan d'eau baisse et réduit, et c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de problèmes de navigation.
Alors, généralement, qu'est-ce qui s'est fait en cette période pour permettre à ce que la navigation se passe sans beaucoup d'accidents, sans trop de problèmes?
Nous demandons aux navigateurs de respecter scrupuleusement les instructions relatives à la navigation. Et là, je peux le résumer en deux points essentiels. D'abord, le respect du tirant d'eau. Et deuxièmement, le respect du balisage en place.
Le respect de?
Du tirant d'eau. Donc, l'enfoncement du bateau. Pardon. Qui est fonction du mouillage, donc de profondeur qui sont offertes. Et comme nous n'agissons pas, nous, humainement, c'est naturel, nous devons limiter. Dire au navigateur que si vous chargez à Kinshasa pour atteindre Kisangani, vous devez prendre en compte telle caractéristique du cours d'eau et qui limite votre chargement.
Et vous avez des agents à vous qui sont sur place au niveau du lieu d'embarcation pour vérifier tout cela?
Bon, ça nous le faisons pas, c'est la direction de la marine de voies navigables. Nous, c'est juste l'aménagement et l'entretien de voies d'eau. Mais est-il que nous avons des échelles d'étiage implantées un peu partout le long du cours d'eau qui nous permettent de connaître quelle est la hauteur d'eau à cet endroit et nous pouvons faire une corrélation pour dire au navigateur, par exemple, si vous chargez pour Kisangani, vous devez prendre en compte l'échelle étalon qu'il y a à l'Issala. Parce qu'il y a une passe difficile qui est rocheuse. Nous ne pouvons rien. Nous l'exploitons comme tel. Et que si vous ne respectez pas la hauteur d'eau qu'il y a à cet endroit, vous risquez de connaître des incidents ou accidents de navigation.
Il y a des signalisations à ces endroits. Il y a également des signalisations.
En dehors des échelles, mais ce sont le balisage, les signaux de balisage, ça peut être fixe comme ça peut être mobile. Bon. Et notamment dans le pass, ce sont les alignements limitatifs axiaux et les bouées qui guident le bateau pour pouvoir franchir ce pass difficile et continuer à naviguer en toute sécurité.
Et le balisage, ça se fait à quel rythme?
Bon. En principe, le gros de nos efforts sont concentrés pendant cette période d'étiage ou de basse saison. Parce que nous disons, c'est à cette période le jargon vulgaire que le fleuve montre tous ses ossements. Bon. Pendant les hautes eaux, c'est caché, vous avez suffisamment de l'eau, vous ne voyez pas. Mais maintenant, vous pouvez remarquer que là-bas, il y a un banc rocheux et qu'il y a une épave qui a coulé bas et qu'on n'a pas pu renflouer, qui constitue un obstacle. Et alors, il faut que tous ces obstacles soient signalés de manière à permettre aux navigateurs de pouvoir prendre en compte cette signalisation et de les éviter. Et je peux vous dire que là, nous avons un petit souci,
oui.
Parce que nous devrions être présents sur le terrain, mais les deux baliseurs opérationnels connaissent quelques petits problèmes sur le chantier naval de Nonatrin. Et j'y étais hier, je crois que le premier baliseur qui a été complètement révisé.
Les problèmes sont arrivés à quelques jours de la saison. Quelques jours de la saison.
Oui.
Donc ça, je vous bien, c'était déjà bien avant, mais vous avez peut-être traîné pour trouver des fonds pour les réparer ou quoi.
Ça peut s'expliquer, oui. Mais vous devez savoir que nous avons concentré beaucoup d'efforts pour l'exploitation de l'ITB Kokoro.
Oui.
Ce qui a fait que nous avons pu relier les deux baliseurs pendant au moins 4 mois. Ça nous donnait le temps de repli pour pouvoir faire des entretiens qui sont normaux. Alors, au bout du compte, en mai, nous avons constaté que ce moteur présentait quelques petits problèmes.
Mais puisque vous évoquez le cas de l'ITB Kokoro, mais j'aimerais savoir pour l'ITB Kokoro par exemple, c'est-à-dire que qui a cette envergure-là et les baleinières qu'on voit souvent généralement lorsqu'on va à Maluku ou à tous ces autres lieux d'embarcation, est-ce que les dangers c'est le même lors de la navigation en saison sèche?
Non, les dangers ne sont pas les mêmes. Parce que le baleinière présente un enfoncement qui est moindre. Il peut faire, si pas 0,40, 0,60, si vraiment c'est chargé au maximum. Par contre, le grosses unités, telles que l'ITB Kokoro, a un enfoncement de 1,40 m. Et si nous disons, par exemple, pour les cours d'eau de première catégorie, notamment le fleuve et la rivière Kasai, nous préconisons un tirant d'eau de 1,30 m. Donc ils doivent réduire ou carrément mettre le bateau au parking, attendre la période favorable pour relancer l'exploitation.
Mais pour le baleinier par exemple qui navigue, est-ce qu'ils ont tout l'appareillage qu'il faut lorsqu'ils naviguent sur le fleuve?
Non, ils naviguent à vue, ils suivent s'il y a le balisage qui est en place.
Oui.
Et notamment, pour plus de sécurité, nous leur interdisons de naviguer pendant la nuit. D'abord, c'est la loi leur interdit, parce qu'ils n'ont pas de feu de signalisation, ils ne peuvent pas. Et notamment, nous leur demandons aussi de rester dans...
Mais il leur arrive aussi, des fois, de naviguer la nuit, malgré l'interdiction.
Oui, ils naviguent aussi la nuit. D'ailleurs, vous comprendrez que la plupart d'accidents que nous enregistrons, c'est plus la nuit. C'est plus la nuit. Bon, ils disent qu'ils font ça pour fuir le tracasserie, éviter l'administration qui doit vérifier les documents si ce bateau est en ordre pour naviguer. Alors, ils préfèrent naviguer la nuit à l'air risque péril.
Alors, c'est pas bon parce qu'ils mettent également en danger la vie des passagers.
Oui, c'est vraiment exclu. Parce que s'ils frôlent un banc de sable ou un banc rocheux, tout de suite c'est la catastrophe. Mais si c'est le jour, ils ont tout le temps de voir le danger au loin et de pouvoir manœuvrer pour l'éviter.
Voilà, on va poursuivre avec vous, Gabriel Bokango, vous êtes directeur technique à la régie des voies fluviales. Avec vous, on parle de comment naviguer en toute sécurité en saison sèche. Je rappelle le numéro de contact. Si vous venez de nous joindre à nous sur la fréquence de la paix, vous êtes intéressé par ce sujet sur comment naviguer en toute sécurité en saison sèche. Le numéro d'appel, c'est les 081-890-63-79. Je répète, les 081-890-63-79. Le numéro habituel, les 081-890-63-94. Quelques problème, alors appelez au 081-890-63-79.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Alors, vous avez dit vous avez dit ça, je m'adresse à mon invité, Gabriel Mokambo, directeur technique à la régie du roi fluvial. Vous avez parlé du comment naviguer en toute sécurité en saison sèche. Vous avez dit que vous avez, en tout cas, mis beaucoup d'efforts, hein, pour bien baliser, le fleuve par rapport à l'ITB, Kokolo. Les deux baliseurs actuellement ne sont pas opérationnels. Alors, mais qu'est-ce qu'il en est maintenant? Parce que la navigation se poursuit. Il faut rapidement trouver une solution pour ces deux baliseurs.
Et c'est ce que je vous avais dit, que nous pensons la semaine prochaine récupérer un de baliseurs,
oui,
que nous allons tout de suite mettre en exploitation pour remédier à la situation. Mais qu'à cela ne tienne, les hommes qui naviguent, nous pensons, ils ne sont pas des néophytes ou des profanes. Et ils ont toujours navigué sur ce cours d'eau, ils connaissent les endroits où il y a des difficultés. Et il n'y a qu'à s'en tenir, surtout qu'au mois de juin et de juillet et août, les eaux sont rentrées dans le Talweg. Ils n'ont qu'à respecter ça, et je crois qu'ils pourront naviguer comme ils se doivent, comme ils l'ont toujours fait.
Mais donc, au mois de
juillet,
les eaux commencent déjà à remonter.
Non, ne remontent pas.
Oui.
Mais les eaux qui se retirent,
oui,
se concentrent maintenant au milieu, dans les endroits les plus profonds que nous appelons les Talweg, non, c'est un mot anglais, non, allemand.
Oui.
Et ils peuvent suivre cette route et pouvoir naviguer. Mais c'est quand on veut prendre le raccourci. Par exemple, à cette période ici, nous interdisons aux bateaux de prendre tout ce qui est comme route secondaire.
C'est à expliquer un peu tout ça. Parce comment ils connaissent toutes ces routes-là, principales et secondaires? Donnez-nous un peu d'exemple. Oui.
Quand vous voyez un cours d'eau, à un certain moment, vous avez plusieurs bras.
Oui.
Hein, ça se divise en deux ou trois bras.
Oui.
Mais là où est concentré le plus grand débit, le volume d'eau, c'est la route principale. C'est la route que nous balisons essentiellement. Mais il arrive que nous puissions aussi baliser la route secondaire. Par exemple, ici, quand on sortira avant d'atteindre Maluku,
oui,
vous avez Angamadjo, la route principale qui va vers la gauche, mais il y a la route secondaire qui passe vers l'île de Kabungo, qui rejoint la voie principale dans le Chenal. Mais pendant cette période, cette voie ne peut pas être fréquentée, surtout par les grosses unités.
Alors, vous faites comment? Comment ils sauront que ça peut être fréquenté? Vous mettez à... Comment on fait, hein, pour que ça...
Bon, ouais. Il y a toute une législation.
Ouais.
C'est ce que je dis. Les gens qui vont à l'école, les gens qui vont à l'école de navigation connaissent parce qu'ils apprennent. Et puis, dans les albums de navigation, ce sont des cartes qui décrivent un cours d'eau. Il y a des spécifications qui disent qu'à telle période, puisque l'échelle de tel endroit indique tel niveau, vous ne pouvez pas prendre cette voie. Mais ce sont des raccourcis. Plusieurs personnes préfèrent prendre les raccourcis.
Même les baleinières.
Même surtout les baleinières. Eux, ils comptent sur leur faible tirant d'eau. Ils prennent le raccourci et ça leur coûte un peu le trajet. Mais c'est pas indiqué. Nous disons rester dans la voie principale, là où il y a le grand débit, là où nous supposons avoir aussi des grandes profondeurs.
Voilà, nous avons déjà un premier auditeur en fait signe qui veut réagir par rapport à ce sujet sur comment naviguer en toute sécurité en saison sèche. Nous rappelons le numéro de contact, il faut appeler au 081 890 63 79, si vous voulez également intervenir au cours de cette émission pour poser votre question ou peut-être donner un témoignage. Hein. Je sais que vous êtes arrivé lorsque vous avez pris le fleuve Congo. Alors, nous avons déjà Jean d'Amboche qui nous appelle du Côte d'Ivoire, qui est en ligne. Jean d'Amboche, bonjour. Jean d'Amboche, bonjour.
Bonjour, ma frère. Bonjour à l'invité, c'est à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, vous êtes en ligne,
je
vous écoutez.
J'ai une question à l'invité, hein, pour savoir, parce qu'il a parlé du balisage.
Oui.
Je voudrais savoir avec quels moyens et comment faire le balisage, surtout dans des contrées où nous retrouvons des populations qui n'ont même pas à leur possession des moyens possibles pour faire le balisage. N'y a-t-il pas un autre moyen pouvoir les aider à faire d'effectuer ces manœuvres. Merci pour...
Voilà, voilà. Merci Jean d'Amboche, merci d'avoir appelé du Colouésie dans la province du Katanga. Nous avons Alphonse qui est dans la province orientale. Alphonse, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, bonjour Marcel, c'est Alphonse Boudril-Guélé depuis Indoko, dans le territoire de Haro.
Voilà, on vous écoute Alphonse.
Marcel, oui, merci Marcel pour la parole. Je suis vraiment un profane dans ce domaine, dans les thèmes d'aujourd'hui. Et quand cela n'est rien, je vais poser des questions vraiment de curiosité. La première, c'est comment remarquer que dans tel endroit, il y a des obstacles quand vous naviguez. Donc la deuxième question, il faut, quand par exemple vous transportez une tonne, vous naviguez avec une tonne, il faut quelle profondeur de l'eau. Une troisième question peut-être, quels sont les risques les plus fréquents pendant la navigation en étiage et les risques là sont causés par quoi? La dernière question peut-être, comme je suis nouveau vraiment dans ces thèmes, les mots balisage, balisé, vous l'avez prononcé plusieurs fois, je voudrais que je comprenne ça avec tous les autres auditeurs qui sont des profanes comme moi.
Voilà, merci. Merci Alphonse Boudrelli, vous appelez Dingokolo en province orientale. Alors, monsieur Gabriel, qu'est-ce que vous dites d'abord? Voilà, on aimerait d'abord savoir si vous voulez bien expliquer le terme balisage. Et d'ailleurs, c'était aussi la première question de Jean Dambroche qui a dit avec quels moyens fait-on ce balisage et puis comment on le fait.
Ok, merci beaucoup. Je remercie les deux auditeurs. Pour M. Jean qui est à Colouse, il doit savoir que pour baliser, il faut avoir le moyen. Le premier, il faut avoir une unité flottante que nous appelons baliseur. Parce que vous travaillez sur un espace liquide, pas sur un espace ferme. Donc, il faut avoir un baliseur qui vous permet de vous déplacer sur l'eau. Et en deuxième lieu, il faut avoir le matériel de balisage. Ici, j'entends par matériel les signaux de rive qui sont en bois, le bouée qui sont des signaux flottants. Et on peut ajouter à cette liste les alignements qui sont du ressort du balisage fixe pour les endroits fixes qui ne bougent pas. Les obstacles sont là, statiques. À ce moment-là, nous mettons le balisage fixe. Mais sur le pour, qui sont dans les endroits, des zones divagantes, où le banc de sable se déplace, oui, nous faisons un balisage mobile en fonction de réalité que nous trouvons sur le terrain.
Alors, puisque on revient à cause du mot balisage, il voulait savoir, quand on dit baliser, on fait quoi exactement?
Baliser, si je peux, dans des termes très simples, dire que c'est mettre les signaux en place pour pouvoir guider le navigateur. Même dans le domaine aérien, on parle de balisage. Là, il s'agit de balisage aérien. Et nous, ici, nous parlons de balisage pour ce qui est de voie navigable. Donc, c'est l'ensemble des signaux qui matérialise la route de navigation, c'est ce que nous appelons balisage.
Il y a aussi des signaux qui peuvent être lumineux.
Si. Donc, dans ce balisage, nous avons aussi des signaux lumineux. Par exemple, quand vous êtes dans le bureau maritime, les bouées sont lumineuses. Et quand vous êtes dans la partie est, sur le lac là-bas, nous ne mettons pas le balisage que nous faisons aussi dans les zones intérieures, parce qu'il y a suffisamment de profondeur, ce sont des mers intérieures, on fait un balisage lumineux. On met le feu d'approche pour permettre au bateau de savoir qu'il y a un port là-bas et qu'il y a un récif ici et il faut l'éviter.
Voilà, Alphonse a également cherché à savoir pour ce qui est du tonnage. Est-ce qu'en période, en saison sèche, il y a un tonnage bien précis et qu'on exige pour naviguer sans problème?
Bon, ici, il me serait un peu difficile de lui expliquer, mais il doit savoir ceci. Quand vous construisez votre barge, avec votre constructeur, vous vous mettez d'accord. Il vous dit, par exemple, je vous construis une barge de 200 tonnes. Et la barge de 200 tonnes, suivant la forme qu'il va donner à votre barge, il vous dit... Si vous avez, parce que sur les flancs de votre barge, vous avez des échelles. de sorte de graduation, qui vous dit quand vous chargez à 1 mètre, vous avez tel tonnage.
Oui.
Et en ce moment-là, vous devez maintenant voir, vous irez sur quel cours d'eau.
Oui.
Et quels sont les mouillages à cette période de tillage qui sont offerts.
Oui.
C'est, cela va limiter. Par exemple, si quelqu'un charge son bateau, nous disons à 1 mètre, déjà sur Kassai, ça sera amplement suffisant pour lui. Mais le 1 mètre va correspondre à un tonnage fixe d'après la forme de sa barge. Donc une tonne qui représente 1000 kilos, je crois même une baleinière qui a un tirado de 20 cm peut toujours passer.
Il est également posé la question de savoir quels sont les obstacles le plus fréquents en saison sèche.
Bon, en saison sèche, nous avons fréquemment la présence de bancs de sable. Pendant les hautes eaux, vous ne le voyez pas, mais pendant les basses eaux, vous avez de plaines alluviales qui se forment, le oui. banc de sable. Et deuxièmement, ce sont le banc de roche
oui.
qui émerge, qui sort de l'eau. Et vous devez les considérer comme des obstacles à éviter. Parce que si même une construction atoll naval passe dessus, la déchirure sera importante. Donc ce sont ces bons. En dehors de ça, on peut avoir le snack, donc les troncs d'arbres.
Oui.
Surtout que si nous nous trouvons dans la cuvette centrale, il y a les grumes qui échouent, ou les billes se dispersent, ou les troncs d'arbres qui tombent suite à l'érosion de rive. Et ça peut constituer aussi des obstacles.
Voilà, on va aller à Issiro, on pourrait s'orienter pour retrouver Gondélé qui est en ligne. Bonjour Gondélé.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité ainsi que tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
J'ai une préoccupation, ce ne serait pas vraiment une question.
Oui.
Je vais rapprocher la voie de l'eau par rapport à la voie terrestre.
Oui.
Je considère l'école de navigation comme une grande institution de formation d'auto-école de la Gombe ou d'ailleurs, et les baleinières comme du moins de voitures dans des centres de formation à la cité. Bon, je voudrais demander à l'invité quelle serait sa contribution eu égard au nombre d'accidents qui sont légion des baleinières pour faire de sorte que les conducteurs de baleinières puissent bénéficier des formations, par exemple, comme des étudiants ou des élèves de l'école de navigation, pour qu'ils soient outillés dans, du moins, l'interprétation de balisage. Ici, je vais dire, par exemple, que dans les centres de formation, des cités là où les gens apprennent à conduire des véhicules, contrairement aux grandes institutions d'auto-école de la Gombe, d'ailleurs, ils ont en commun les codes de la route, donc que ce soit à l'autocode de la Gombe ou dans un centre de formation à Ngaba ou ailleurs, donc ils ont un étalon commun, c'est-à-dire tous les signaux des codes de la route. Bon, qu'est-ce qui serait, cette préoccupation s'adresse à l'invité, quelle serait sa contribution maintenant à l'égard de ces gens-là qui apprennent sur l'État, donc peut-être qu'il n'a jamais vu un balisage et qu'il a un formateur devant lui, qu'il est lâche peut-être après un laps de temps, pour dire que non, maintenant tu es prêt à naviguer. Bon, lui, comme un aiguilleur, lui, comme quelqu'un de la tour de contrôle, si on veut se référer à la navigation aérienne, quel serait son apport par rapport à ces gens-là qui n'ont jamais été formés ou qui n'ont jamais eu des notions comme ceux de l'école de navigation? Parce qu'ils sont à bord des baleinières. Quelle serait sa contribution?
Merci,
voilà,
on a compris. D'accord, on a compris votre préoccupation. Merci Gondélé d'avoir appelé Dizero. Gabriel Mokambo, qu'est-ce que vous dites à Gondélé?
Je le salue et je le remercie pour sa contribution. Bon, voilà. Le conducteur de baleinières doit être aussi formé. Ils doivent connaître toute la signalisation qu'on met sur le cours d'eau. Étant donné que le centre de formation qui est ici à Matonga, Kauka, forme plus le genre dans une formation classique, mais est-il qu'on fait aussi le recyclage. Donc ces conducteurs de baleinières doivent demander, par exemple, à l'autorité notre ministère de tutelle, de transport et voies de communication, par les biais de divisions provinciales, d'organiser des formations. On peut prendre un formateur d'ici, l'envoyer là-bas pour un cycle de 3 mois. Et ils peuvent venir ici à Kinshasa, ceux qui en ont le moyen. Le centre peut organiser des modules de formation pour eux, de manière accélérée. Ne fût-ce que pour connaître quelles représentent toutes les signalisations. Comment les interpréter? Parce qu'il ne suffit pas seulement de conduire, mais vous devez savoir interpréter toute la signalisation que vous trouvez sur votre parcours. Donc c'est possible de le faire, et d'ailleurs, je vais vous apprendre que le centre qui, ma foi, va passer maintenant la 3e promotion, avait commencé dans un premier temps à faire une remise à niveau de tous les anciens qui avaient demandé des formations de 3 mois. Ils sont sortis avec un brevet, et d'ailleurs, dans le tout prochain jour, la conduite de toute unité sera assujettie à la présentation d'un certificat. Ah, sinon, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de naviguer, et ça nous éviterait moins des accidents, et on va enlever une partie de la trilogie qui veut qu'on s'occupe de la mécanique, mais des infrastructures, mais aussi de la qualification de personnes. Si les hommes sont qualifiés, nous ne resterons qu'avec les deux autres éléments, les infrastructures, et nous allons nous en occuper, et mais eux-mêmes aussi doivent voir l'état mécanique des engins qu'ils mettront en place. Ah. On va éviter comme avec le phénomène de 207. Ah.
Voilà, il faut éviter ça sur le bief maritime. Voilà, Alfred nous appelle de Kissangani en Provence orientale. Bonjour Alfred.
Bonjour, allô.
Vous êtes en ligne Alfred, allez-y.
Non, je suis à Kinshasa.
Ah, vous êtes à Kinshasa, c'est bon, allez-y, quelle est votre question?
Bon, ma question c'était ceci. La RVF, depuis 1990, il n'a aucun cours d'eau balisé jusqu'à aujourd'hui. Mais la RVF, sa mission est de baliser des routes fluviales en RDC. La ligne est Kinshasa-Kisangani sur le fleuve Congo, Kinshasa-Ilebo sur le fleuve Congo et la rivière Kasai. Mais aujourd'hui, depuis 1990, aucun cours d'eau n'est balisé. Je suis étudiant à l'ISES, centre de transport.
Voilà. Merci Alfred, merci d'appeler l'équipe Kinshasa. Gabriel Bukango, qu'est-ce que vous dites Alfred?
Ok, merci, je le remercie. Mais je suis un peu ahuri de l'entendre parler comme ça, parce que moi, en tant que directeur technique, je reçois aussi les étudiants de l'ISES en stage ou qui viennent pour recherche. Et il ne pourra pas dire depuis 1990 ou 90. Vous le savez aussi bien que moi que l'UTB Kokoloki est parti, le fleuve était balisé. Je vous ai dit, si nous nous sommes concentrés pendant 4 mois. Donc il ne pourra pas le dire. Donc le fleuve est balisé, et je suis honnête pour dire que c'est la rivière Kasai qui a souffert un tout peu, parce que c'est depuis février de l'année passée, nous n'avons plus balisé la rivière Kasai, parce que l'unique baliseur a été retiré pour venir appuyer le baliseur, l'homme qui était sur le fleuve. Mais en dépit de tout cela, lui doit savoir que depuis 2012, nous sommes en programme avec le projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacs, financé par l'Union européenne, nous sommes à pied d'œuvre. Et il y a aussi la Banque mondiale qui finance le projet de transport multimodal. Et il doit aussi comprendre, lui, en tant qu'étudiant, ce sont les recherches, les informations qu'il doit obtenir. Nous voulons sortir de notre empirisme balisé à vue. Il faut d'abord des études hydrographiques préalables, et c'est après qu'on va venir faire le balisage. Et nous sommes en phase d'acquisition de matériel qui nous permettront de mener des études et de pouvoir mettre un balisage efficient sur le cours d'eau.
Voilà, avant de finir avec vous, on va découvrir ces deux réactions qui nous sont parvenues sur la page Facebook Okapi Service. Langouge Socrate qui nous écrit des Lubumbashi, il écrit ceci. C'est normal cette situation dans les milieux de la crise fluviale, mais il faut des dispositions parce que parfois on fait allusion à la sécheresse d'eau pendant que le problème de sable aussi s'impose, car j'ai vu ça à Calémie, mais les mêmes problèmes, mais une fois enlevé, aujourd'hui on n'a plus ce problème au niveau de Calémie, tout se passe bien. Il y a Samson Safari qui n'a pas, il nous a pas pris les cris d'eau, mais au moins il écrit ceci. Pour bien naviguer à cette période, c'est simple, éviter seulement de trop surcharger les bateaux.
Oui, je partage leur point de vue, surtout pour M. Socrate, et pour dire que Calémie et Kalundu se trouvent sur le lac Tanganyika. Le grand problème qui se pose à ce niveau, c'est l'ensablement au niveau de port. À Calémie, travail a été fait avec la coopération technique belge, mais le projet a une durée de vie, ça a pris fin.
Oui.
Nous avons essayé de draguer pour que au niveau du port qu'on ait une profondeur de 4,60 m qui correspond aux bateaux qui pourront entrer et accoster facilement. Mais avec le mouvement de vent, de vagues, tout ça, et nous sommes en train de perdre ces mouillages. Et c'est comme ça que nous avons demandé à nos partenaires de nous fournir notre type de drague plus performant qui pourra remédier à cette situation. Quant au port de Kalundu, ce sont plus des graviers. Et nous ne pouvons pas aller avec une drague suceuse. Ça risque de faire péter le machine. Il faut une drague pelleteuse, comme ceux qui creusent le caniveau pour le voie terrestre, pour enlever les graviers et le mettre à côté. Donc, c'est déjà pris en compte. Je crois que au début de l'année prochaine, ils verront déjà à l'œuvre ce qui sera fait. Mais pour Samson, vous pouvez me répéter un peu ce
que... Non, en fait, lui, il a simplement écrit ceci. Il dit que, bon, il faut éviter d'être surchargé, hein, les bateaux.
Oui.
C'est ce qu'il a dit. C'est
son point de vue. Oui, une raison, quand je disais, il fallait respecter le courant d'eau.
Oui.
Donc, le chargement tient fonction du courant d'eau et du mouillage offert. Si vous respectez, vous allez naviguer partout, vous n'allez pas accrocher. Mais si vous ne respectez pas, vous chargez à Kinshasa, mais arrivé au milieu de votre parcours, vous ne pouvez plus, il faut faire les transbordements, ou il faut vous cogner si vous forcez, et à ce moment-là, vous allez connaître des avaries.
Gabriel Mokango, vous êtes directeur technique à la Régie des Voies Fluviales. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour aborder ces sujets sur comment naviguer en toute sécurité en saison sèche, et surtout merci de votre disponibilité chaque fois qu'on aborde des sujets liés à la navigation. Vous êtes toujours prêt à répondre à notre invitation. Merci et bonne journée.
Merci, sûrement que vous remerciez tous les auditeurs de la radio. Merci.